micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Campus Grenoble et de Micro-ondes, l'émission qui parle des luttes de l'actualité à Grenoble et son agglomération. À l'occasion de la venue de la syndicaliste tchadienne Kamadji Dembakarium, qui a donné une conférence sur invitation de l'association Survie, Micro-ondes s'est déplacé pour réaliser son interview. Une très belle occasion d'aborder à la fois les luttes syndicales au Tchad, mais aussi le combat féministe, une lutte à continuer au Tchad comme partout dans le monde. On vous propose donc de revivre cette très belle rencontre avec vous, avec nous, pendant la prochaine heure. Bonne émission Micro-ondes sur le 90.8 FM.
Donc, Élise de l'association Survie Isère. Survie, c'est une petite association avec de grosses ambitions. C'est notre ambition n'est rien de moins que de mettre fin à la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est un système qui a été mis en place au moment des décolonisations, en fait, pour que la France puisse garder la main mise sur ses anciennes colonies par tout un tas de systèmes occultes, assez inavouables, qui fait qu'elle garde la domination et la main mise aussi bien sur les économies, les systèmes politiques, culturels, l'armée. Enfin, elle va jouer un rôle dans des États officiellement indépendants, tout à fait indécents. Et avec cette domination, elle se fait avec une alliance entre des élites françaises et africaines qui mettent en place les outils de cette domination. Donc on a invité pour une tournée dans tous les groupes de survie Kamadji Dembakarium, qui est une militante syndicale tchadienne. Elle est aussi greffière et sociologue. Et elle est très impliquée dans les luttes syndicales au Tchad, mais aussi à l'international. Et voilà, on est ravis de l'inviter. Elle a participé dans toute la France à des rencontres. Elle a participé aussi, à l'occasion de sa venue, à un grand forum qui s'est tenu à la Bourse du Travail à Paris, dont le titre était « Armée française hors d'Afrique ».
Bonjour, moi c'est Kamadji Dembakarium. Je suis militante syndicaliste de l'Union des syndicats du Tchad. Et je suis greffière de formation, je travaille à la cour d'appel de N'Djamena. Je suis en France à l'invitation de l'organisation Survie. C'est une organisation partenaire depuis une dizaine d'années déjà qui milite pour la fin de la France-Afrique. Et nous, en tant que syndicalistes, nous répondons toujours présents à l'appel du départ des bases militaires françaises en Afrique. Et donc, dans le cadre commune des actions de mobilisation pour le retrait des bases militaires françaises au Tchad, nous faisons une tournée ensemble dans quelques villes de France, notamment ici à Grenoble, pour renforcer déjà la compréhension des citoyens français sur ce qu'est la France-Afrique et également à quel point expliquer les enjeux et l'impact de la politique étrangère française au Tchad, notamment son soutien aux dictatures tchadiennes, et également d'appeler les citoyens français à demander plus de comptes au gouvernement français par rapport à sa politique étrangère dans mon pays. Il faut rappeler que le Tchad est un pays qui est situé déjà en Afrique centrale, avec des pays limitrophes comme le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Soudan, la Libye. Et géographiquement, nous sommes étendus sur 1 284 000 km² avec une population à environ 17 millions d'habitants. C'est un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs parce que le Tchad est couvert aux trois quarts par le désert. Et en 2003, nous sommes devenus pays exportateur du pétrole. Mais les ressources traditionnelles au Tchad proviennent de l'agriculture, de l'élevage et des taxes sur les biens et services au niveau des douanes. Pour rappel, le Tchad appartient à l'Afrique équatoriale française avant la décolonisation. Et le 11 août 1960, la France nous a donné l'autorisation d'être un État indépendant. Il faut rappeler déjà qu'avant même l'indépendance, le Tchad a répondu, est parmi les premiers pays africains qui ont répondu présent à l'appel du général de Gaulle pour libérer la France. Et donc aujourd'hui, nos valeureux anciens combattants ont vaillamment et brillamment porté secours à la France. Et cette libération, on la doit à ces hommes et femmes qui ont apporté leur contribution physique pour la libération de la France. Et depuis 1960, sur les papiers, nous sommes un État indépendant. On ne dépend plus du colon français. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que lorsque vous prenez l'histoire du Tchad, depuis les années 60, il n'y a eu que des dictatures qui se sont succédées. Donc, les premiers présidents, Tom Mbaye, Gokouni, Issenabri, Déby, qui se sont succédés au pouvoir, ont toujours recours à la France pour demander un appui aérien pour pouvoir soutenir leur pouvoir. Parce que tous les pouvoirs également qui se sont succédés, ils sont partis les uns après les autres suite à des coups d'État militaires. Et la France est intervenue pour apporter soit un support aérien, un support technique aux militaires au sol pour pouvoir réprimer les colonnes des rebelles qui avançaient vers la capitale pour pouvoir prendre le pouvoir par les armes. Et donc, je pourrais dire qu'au bout de 40 ans, on est appelé à se poser une seule question. Pourquoi, après 40 ans d'indépendance, la France est toujours au Tchad? Que fait-elle au Tchad? Avec quels moyens? Pour quelles raisons? Malheureusement, le constat, il est alarmant, parce que le gouvernement français, au motif de la coopération internationale, dit soutenir le Tchad sur les questions de développement, les questions économiques, les questions politiques. Mais malheureusement, nous constatons que le Tchad est le seul pays africain qui a reçu plus de missions militaires françaises. Et toutes ces missions militaires ont été un appui direct aux dictatures en place. Et aussi que, après que ces dictatures sont mises en place, la France a également apporté un soutien matériel conséquent à ces dictatures pour pouvoir se maintenir au pouvoir, parce qu'elle les soutient dans les financements publics, notamment par des projets que portent les agences françaises de développement, comme l'AFT ou d'autres projets de l'Union européenne. C'est quand même triste qu'au bout de ces 60 années de coopération économique ou politique, le Tchad fait partie des trois derniers pays les plus pauvres au monde où on vit avec moins d'un dollar. Et qu'on soit parmi les trois premiers pays les plus corrompus au monde, et malgré qu'on exploite l'or et le pétrole et tout cela. Bon, nous nous sommes amenés à poser la simple question, mais durant ces 60 années de règne, la France a utilisé quelles ressources publiques pour pouvoir soutenir cette dictature? C'est sur les fonds publics français, qui n'est autre que les contributions des contribuables français pour soutenir sa politique étrangère. Mais malheureusement, cette politique étrangère, elle est destinée à consolider le pouvoir des dictatures, à réprimer aussi toutes les voix qui s'élèvent contre cette dictature, parce que on prend juste la dernière dynastie de Déby qui a été intronisée par Emmanuel Macron. Il y a eu des exactions qui ont été commises, il y a eu des manifestations qui ont donné lieu à une cinquantaine de morts, des personnes sont portées disparues, et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune enquête qui s'est officiellement ouverte au niveau national ou international pour ne serait-ce que situer les responsabilités. La France est restée muette et ferme les yeux sur ses bavures. Et aujourd'hui, elle continue d'apporter son soutien indéfectible à Mamad Kaka parce que d'ici les semaines à venir, il va organiser les élections. Parce qu'après avoir intronisé Mamad Kaka, il va organiser les élections présidentielles pour pouvoir consolider son pouvoir. Parce que tous les coups d'État militaires qui se sont succédés et qui ont mis en place les présidents dictateurs comme Abré ou Déby, ils ont fini par organiser les élections pour légitimer leur pouvoir et montrer au peuple qu'ils ont quitté les casernes et qu'ils ont porté la touche du civil et qu'ils sont devenus citoyens ordinaires et qu'ils ont le droit d'être président et d'occuper les hautes fonctions au niveau de l'État. Mais nous disons non. Parce que si aujourd'hui la France n'a pas soutenu cette dictature, on aurait déjà amorcé un processus démocratique qui aurait donné lieu à des élections libres, transparentes, où les voix des Tchadiens se seraient exprimées et qu'on aurait choisi des dirigeants à mesure de conduire notre pays. Et donc nous dénonçons ces faits-là et nous appelons tout simplement les citoyens français épris de paix et de justice à répondre effectivement à cet appel que nous leur lançons pour déjà questionner les élus locaux, pour questionner les parlementaires et toutes les commissions au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qu'est-ce que fait réellement les militaires français au Tchad après 60 années de règne? Dans ce contexte aussi que la France est... Bon, des voix s'élèvent en Afrique pour demander le départ de la France en Afrique. Je pense qu'il est temps que la France puisse se débarrasser de cette relation incestueuse avec le Tchad et s'occuper des problèmes internes à la France actuellement. Je pense qu'il y a des défis sociaux au niveau de la France qui nécessitent des investissements conséquents, mais qui ne devrait pas se faire au détriment des Français, parce que aujourd'hui, si ces bases militaires sont installées en Afrique pendant plus de 60 ans, c'est avec l'argent public français, c'est avec l'argent du contribuable français dont les Français doivent se demander à quoi sert leur argent au Tchad. Moi, je dis que leur argent au Tchad sert à soutenir des dictatures en place, ça sert à financer le matériel de répression, ça sert à entretenir des relations, à veiller sur les intérêts des autres puissances étrangères qui sont dans la localité. Mais bon, il est temps que la France s'en aille du Tchad. En fait, c'est le constat que nous faisons. Il est simple, c'est que après plus de 60 ans d'accompagnement ou bien de coopération sur les questions de développement ou les questions économiques, normalement, ces investissements de la France au Tchad devraient soutenir les secteurs sociaux ou bien aider le Tchad à sortir de la pauvreté. Mais actuellement, au Tchad, les gens vivent dans la précarité totale. Il n'y a pas d'accès à l'eau, pas d'accès à l'électricité. Les centres de santé sont dépourvus même du matériel, du kit nécessaire pour les soins de première nécessité. Il y a le chômage qui est croissant chez les couches les plus défavorables. Nos universités ne fonctionnent au rythme des grèves dans des conditions très désastreuses. L'école coûte cher. Finalement, on se retrouve dans la misère totale. Et donc, normalement, si l'aide publique au développement qu'apporte la France pendant ces 60 ans, elle devrait normalement financer les infrastructures sociales. On devrait avoir la couverture santé universelle comme la plupart des Français. On devrait avoir accès à de l'eau potable courant comme ici en France, ou dans certaines localités en France, où on devrait normalement avoir accès à l'électricité de manière permanente. Moi, je suis étonnée que les Français sont tranquilles dans cette électricité et pourtant, ils doivent dire merci au peuple du Niger à cause de l'uranium qui permet de faire fonctionner les centrales nucléaires qui vous donnent de l'électricité. Quel est le désir le plus élémentaire pour tout citoyen africain ou tout citoyen tchadien d'accéder à ses besoins élémentaires? c'est d'avoir l'eau, l'électricité, manger à sa faim, avoir un revenu stable et pour prendre en charge, pour se prendre d'abord en charge et prendre en charge sa famille, étudier dans des conditions nécessaires, travailler dans des conditions décentes. Et après, quand on est en fin de vie, aller avoir une retraite digne et vivre paisiblement dans son village et attendre son dernier jour. Je ne pense pas que ce soit des revendications si énormes qui devraient plutôt inquiéter les gens. Ce sont les mêmes besoins pour les Français que nous, en tant que citoyens tchadiens, nous exprimons aussi. Mais à cause de l'appui que la France apporte à un gouvernement corrompu, un gouvernement qui a fait de sa politique, de la mauvaise gouvernance, une politique d'État, mais on ne peut pas continuer à subir, à regarder à quel point nos ressources sont pillées, comment les dignitaires proches du pouvoir dilapident l'argent public dans des paradis fiscaux où ils entretiennent des relations économiques avec des entreprises qui violent les droits des travailleurs. Non, nous devrons tout simplement dénoncer ces faits-là et aussi demander à ce que la gouvernance soit faite de telle sorte que les ressources nationales puissent profiter à tous les citoyens, lesquels sont dignes de pouvoir accéder à ces ressources-là et lesquels ne le sont pas. C'est l'argent du pétrole constitue aujourd'hui les fonds les plus conséquents pour l'État tchadien et qui devrait les redistribuer et investir dans les secteurs porteurs, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Aujourd'hui par exemple, le Tchad a contracté même une dette pour pouvoir financer ces services sociaux là. Et elle n'arrive même pas à rembourser cet argent et la France continue à apporter l'aide budgétaire à l'État tchadien sans pour autant avoir les garanties que cette aide-là vont dans les secteurs prioritaires. Mais pourquoi injecter même de l'argent public français dans un État qui est corrompu comme le Tchad? Nous n'en voulons pas. Nous demandons tout simplement qu'elle arrête de soutenir cette dictature parce qu'avec l'argent public français, cela permet à cette dictature-là de s'entretenir, de faire taire toutes les voix qui s'indignent contre cette dictature-là et également de maintenir, de consolider son pouvoir dictatorial. C'est trop. Mon père est un ouvrier, ma mère est une ménagère, c'est pourquoi je suis syndicaliste. Je suis syndicaliste, je suis syndicaliste. Mon père est un ouvrier, ma mère est une ménagère. C'est pourquoi je suis syndicaliste, je suis syndicaliste, je suis syndicaliste. Moi, je l'ai appris aussi dans le syndicat, je ne sais pas de lui. Mais c'est une chanson que j'aime beaucoup. Parce qu'elle raconte la vie d'ouvrier et de ménagère que sont mes parents. Et je vois à quel point je suis devenue syndicaliste et que je porte les revendications populaires. Cette chanson me rappelle beaucoup de souvenirs.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro-Ondes sur Radio Campus Grenoble et vous écoutez l'interview de la syndicaliste Kamadjit Mbakarium. Elle vient de nous parler de la situation économique et politique de son pays, le Tchad, en terminant par une chanson syndicaliste. Et on continue avec elle pour aborder la situation plus spécifique des femmes. Bonne suite d'interview avec Micro-Ondes sur le 90.8.
Vous savez, déjà au Tchad, la situation des femmes est catastrophique parce qu'aujourd'hui, la pauvreté et la misère, les gens pensent que c'est une affaire des femmes ou bien une question féminine. D'accord, nous sommes la plus grande majorité, nous constituons la plus grande part de la population. Mais pourquoi la pauvreté devrait plutôt... c'est aux femmes de subir plus la pauvreté, de subir plus la précarité. Quelle est la catégorie des populations qui devraient plutôt accéder au bien-être et que lorsque ce sont les femmes qui accèdent à cela, ça pose problème. Aujourd'hui, les femmes se battent dans des conditions très difficiles. C'est difficile déjà pour une femme d'avoir accès à un emploi qui soit décent. D'ailleurs, je ne parle même pas du travail décent. d'accéder déjà à un emploi. Et lorsqu'elle accède à cet emploi, elle n'accède pas au poste de responsabilité parce que chez nous, quand lorsqu'une femme travaille, on trouve que c'est porter atteinte aux mœurs et que le rôle de la femme, c'est à la cuisine, près des enfants, dans le foyer, et qu'une femme qui va au travail peut porter atteinte aux bonnes mœurs. Ça se fait où? Le travail est un droit élémentaire pour tout individu. Pourquoi les femmes qui devraient travailler doivent poser problème? Et lorsqu'elles travaillent, imaginez, elle arrive à avoir cet emploi, on lui met toute la pression nécessaire pour qu'elle ait la promotion. Elle subit d'abord des harcèlements, que ce soit moral, physique ou même pécuniaire, parce que certains, on leur refuse même, on confisque même leur salaire, on confisque certains de leurs avantages au motif à des motifs qui n'ont pas de raison d'être. Et certaines, on leur demande de changer de poste de travail lorsqu'elles sont, par exemple, en congé de maternité ou lorsqu'elles sont enceintes, on les remplace avec d'autres personnes ou lorsqu'elles sont en congé maladie, tout ça. On leur donne des mises à pied, mais vous restez comme ça, vous demandez, mais c'est quelle histoire? On est dans un pays normal, un pays où il y a le droit du travail et que ces femmes devaient travailler, ça pose problème. Imaginez, sur un lieu de travail où on, normalement, on pense que nous avons des droits qui s'équivalent. Malheureusement, on pense que promouvoir les hommes serait plus important que promouvoir les femmes. Mais les femmes ne cherchent même pas d'abord la promotion parce qu'elles le méritent. Et si ce qu'on avait mis en place, un mécanisme objectif qui devrait soutenir les carrières, accompagner les femmes à accéder à des postes de responsabilité sans condition, ça devait être une normalité. Mais malheureusement, pour accéder à un poste de responsabilité, on leur demande d'en faire trop. Certains même, on leur demande des échanges corporels ou bien qu'elles devraient plutôt vendre leur corps pour pouvoir obtenir des facilités ou des avantages ou accéder à une certaine responsabilité. Mais c'est très grave. Nous avons fait même une enquête en 2019 pour voir les disparités qu'il y a entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. On s'est rendu compte que beaucoup de camarades travailleuses n'avaient pas accès aux mêmes avantages que les hommes. Imaginez sur le matériel de travail. Lorsque c'est un homme qui occupe le service, il a accès à tout le matériel dont il a besoin. Mais lorsque c'est une femme, on lui refuse ce matériel au motif qu'elle n'en a pas besoin et que ça, c'est un travail qui nécessite plutôt un matériel pour les hommes. On va jusqu'à différencier même les postes pour dire que non, ce poste-là, il correspond plus à un profil masculin qu'à un profil féminin, comme si elles étaient relayées au second rang. Mais nous disons non, même dans le traitement. Parce que chez nous, on dit à travail égal, salaire égal. Mais quand on voit dans les indemnités, dans la pratique, même si c'est que le salaire de base, il est le même, les avantages qui sont dus aux femmes sont infimes par rapport aux avantages qui sont dus aux hommes. Pour quelle raison? Et pourtant, c'est le même poste, hein, le même diplôme à des proportions égales et qui devrait donner lieu quand même à des avantages qui s'équivalent, mais ce n'est pas le cas. Mais bon, on continue toujours à porter ces revendications parce que nous, on considère cela comme étant des violations des droits syndicaux. Et chaque année, on reporte cela dans notre rapport pour dire qu'effectivement, sur certains postes ou sur certains avantages ou suivant les conditions de travail, il y a certaines disparités qui sont là et pour les dénoncer, trouver les voies et moyens pour pouvoir régler ces problèmes-là. Il y a aussi, par exemple, sur les questions sanitaires. Moi, j'ai déploré le fait que sur un lieu de travail, comment pouvez-vous comprendre que accéder aux toilettes devrait être un problème? C'est un besoin élémentaire. Un besoin élémentaire, mais vous allez vous rendre compte que sur certains lieux de travail, ils ont gardé les toilettes ce sont les hommes qui détiennent les clés de ces toilettes et que les femmes n'ont pas droit à ces toilettes. Mais imaginez, si un besoin est pressant, tu le fais où? La femme va aller dans quelle toilette pour aller le faire? Au motif que, parce que chez nous, les hommes, ils pensent que les femmes n'ont pas tellement, n'ont pas de droit ou bien sont toujours relayées au second rang. Donc, du coup, ils ne veulent pas aller dans les mêmes toilettes que les femmes. Et donc, on les écarte tout simplement et elles font leurs besoins autrement. Mais c'est alarmant quand même. Vous allez voir qu'un chef de service, vous êtes deux chefs de service, une femme et un homme. L'homme, il peut avoir des toilettes, mais la femme, elle n'a pas les toilettes. Parce qu'on dit que non, la priorité ici, c'est aux hommes. Mais c'est quel délire! Ça ne peut pas se faire! Ça ne peut pas se faire! Et quand vous voyez, dans... Moi, j'ai rencontré ce problème-là avec les femmes qui sont dans le secteur informel, c'est des artisans. Ils font un peu dans la transformation des produits locaux, tout ça. Vous imaginez que déjà une femme, lorsqu'elle fait du travail physique, ça demande beaucoup de travail. Elles ont des champs. Elles sont des agricultrices, elles élèvent les petits ruminants et elles en font de ça une activité génératrice de revenus. Mais malheureusement, lorsque elles veulent par exemple acheter des parcelles de terre, on leur demande non. Est-ce que votre papa est là? Est-ce que votre mari est là pour cautionner la garantie, pour qu'on puisse ne serait-ce que vous louer la parcelle de terre? Quel est le droit qui doit accéder à la terre? Une parcelle que moi, je dois louer tout simplement pour faire une activité. En quoi est-ce que le mari ou le frère ou le père devait apporter comme garantie? Parce qu'elle ne peut pas être garantie de l'activité qu'elle mène sur le terrain. Mais c'est très grave. C'est très grave.
Elou. Beauté si parfaite que nous, la fille de fond, l'ami, on la touche juste avec amour. Quel loup, bita, gardez-la bien.
Le titre de la chanson, c'est Kelou de Matibé Geneviève. Elle est auteure, compositeur et cantatrice tchadienne. C'est une grande artiste féministe au Tchad. Elle chante les violences faites aux femmes. Elle chante les maltraitances faites aux femmes. Elle dénonce l'excision, le mariage précoce et la traite des personnes, notamment celle faite aux femmes. Et dans sa chanson Kelou, elle parle de la valorisation de la femme. Elle dénonce le fait que la femme n'est pas appréciée à sa juste valeur, elle n'est pas rémunérée à sa juste valeur et elle est reléguée au second rang. Et pourtant, l'apport que la femme apporte dans la vie des personnes est important. Elle chante, elle appelle les gens à envoyer la femme à l'école parce que elle est instruite, mais demain, c'est elle qui aura la responsabilité de résoudre les problèmes de sa famille aussi. Elle parle du fait qu'il faut la respecter parce que elle constitue elle est la garante des valeurs familiales et culturelles de notre société. Elle parle aussi qu'il faut l'aimer à juste valeur pour qu'elle aussi se retrouve dans un environnement où elle pourrait partager tant d'amour, parce que lorsqu'elle ouvrira ses ailes, c'est tout le monde qui pourrait se couver dans ses ailes. Kelou, c'est le nom d'une femme tchadienne, et c'est elle qui est son image figure sur le sceau de la République tchadienne. Elle est présentée comme une femme de une Lamifortaine, de l'ancien nom de la capitale N'Djamena. Elle est Bagirmi. Ça, c'est une communauté du Tchad. Et elle est très belle avec de grosses boucles d'oreilles et des nattes tout le long de sa chevelure et de longs cheveux. C'est une femme qui est imposante de par sa carrure. Elle est bien bâtie, grande et forte, dynamique. Et c'est la représentation de la femme, de l'idéal de la femme tchadienne aussi. Au Tchad. Et Kelou fait référence également à une ménagère qui porte sur elle le poids de les problèmes de sa famille, mais qui est une meilleure agricultrice et qui porte son activité au jour le jour et se vient aussi aux besoins de sa famille. Et c'est aussi une femme forte parce qu'elle subit aussi les pressions de sa famille, de sa belle famille, de ses enfants, mais elle garde la tête haute au-delà des pressions qu'elle subit au quotidien.
Nous sommes toujours dans Micro-ondes sur le 90.8 FM et vous revivez avec nous l'interview de la militante syndicaliste et féministe tchadienne Kamaji Dembakaria, venue à Grenoble sur invitation de l'association Survie. Nous avons également entendu la chanson Kelou de Matibé Geneviève et nous continuons à présent à suivre cette interview passionnante sur la situation des femmes et les combats féministes au Tchad. Bonne écoute sur Radio Campus Grenoble.
Oui, parmi les camarades militants, il y en a, vous savez que quand on trouve une femme mûre et aguerrie comme moi et qui arrive à un niveau syndical le plus élevé, les gens pensent que être une militante à mon niveau là, c'est que c'est une femme de petites mœurs, que c'est une femme qui ne veut pas la peine, et ils vont même jusqu'à inciter même certaines femmes de ne pas être en contact avec nous parce que ils supposent que nos prises de parole, nos prises de position pourraient impacter, influer le comportement de leurs filles, de leurs femmes, comme si on disait quoi que ce soit. Lorsqu'on dénonce par exemple les viols, on dénonce le harcèlement sexuel en milieu du travail, on dénonce les attouchements corporels sur les femmes en milieu du travail. Cela fait de nous des parias, Est-ce que c'est un péché d'être femme et dénoncer c'est ce genre de phénomène et que nos collègues vont penser que nous sommes de petites mœurs, de mœurs légères et que on devrait être à l'égard. Mais malheureusement, parce que certaines femmes écoutent, parce qu'elles pensent aussi que c'est des revendications que normalement, à la limite, c'est aux hommes de parler très fort, c'est aux hommes de porter ces questions-là. Mais quand c'est des femmes, on fait tout pour étouffer cela dans l'œuf. Et lorsque certains, on arrive à trouver même celles qui sont victimes, même dans l'anonymat, pour pouvoir dénoncer ces personnes, on leur met de la pression et c'est sur nous que cela se répercute. Donc du coup, on le fait. On le fait avec toutes les injures, toute la colère qui va de soi, parce que on est conscient aussi du fait que dénoncer ces choses-là dans un environnement qui est très traditionnel, qui est très conservateur, on doit gagner en retour des injures ou bien le regard de l'autre aussi, c'est important parce que plus on dénonce, moins on nous considère comme étant des femmes normales. On nous considère comme étant des femmes... on n'est pas ordinaire. On n'est pas ordinaire. Certains nous traitent même de prostituées. On doit faire le travail parce qu'à la limite, on ne cautionnera pas l'injustice, mais on doit le dénoncer par tous les moyens que ce soit. Pire encore, lorsque, par exemple, on doit défendre une personne qui... Parce que vous voyez, chez nous, l'homosexualité, c'est interdit, c'est un crime. Et lorsque on a des camarades ou bien on a des personnes qui sont victimes de... d'harcèlement et que qui sont soit tabassés ou violés ou qu'on a abusé sexuellement d'eux et que ces personnes arrivent à dénoncer, on nous traite également de paria comme ces personnes là mais nous on se dit que mais à la limite c'est des vous insultez les homosexuels, vous refusez, vous le dites, vous nous traitez ouvertement. Parce que chez nous, être homosexuel, c'est une injure. On t'insulte ouvertement. Mais on s'est dit que d'accord, on accepte l'injure publique, mais on sait que dans une famille sur deux, il y a une personne qui est homosexuelle. Donc, si ce que vous pensez nous insulter, ce que vous insultez vos propres parents, si vous ne pouvez pas les accepter, ne les incriminez pas parce que c'est aussi un choix de vie pour chacun. Et donc, on ne devrait pas incriminer qui que ce soit parce que s'il faut voir au détail le comportement ou la vie de chacun, on ne va pas avancer sur certaines revendications. Donc, il faut laisser les gens tranquilles. Et nous, en tant que syndicats, on doit le faire parce que c'est des personnes qui ont le droit de vivre. Ils ont choisi une orientation qui est la leur et ils le vivent normalement. Donc, ça ne devrait pas poser problème. On doit les soutenir, les accompagner et dénoncer toutes les violations qui leur sont faites. Lorsque tu dénonces le viol ou bien les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais les gens nous reprochent parce que ils supposent que ça va à l'encontre des mœurs. Ils pensent plutôt à leur culture, mais ils ne pensent pas à la pression mentale, physique et émotionnelle que la personne victime subit. Et l'intérêt de lui apporter de l'aide pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Il y a des gens qui pensent que une violence conjugale est plutôt due au fait que la femme ne respecte pas l'homme et qu'elle doit supporter une violence physique parce qu'elle a un mari violent qui peut attenter à sa vie et qu'elle ne doit pas dénoncer. Vous trouvez ça normal qu'on ne puisse pas réagir à cela? Les gens pensent que les violences conjugales ne constituent pas une revendication syndicale. Au 21e siècle, on est au 21e siècle. Une femme, à supposer que cette femme-là travaille quelque part et que son mari la rouée de coups, elle se retrouve avec des blessures partout sur le corps. Elle doit aller travailler dans ces conditions. Ne devrait-elle pas recevoir un accompagnement? Son mari qui l'a battu ne devrait pas être poursuivi? Elle, quelle est la charge émotionnelle qu'elle a subie? Toutes ces questions-là, on doit répondre. Et ça, c'est une revendication. C'est un membre qui a un besoin, qui est en situation difficile, qui peut apporter, qu'il faut trouver les voies et moyens pour lui apporter l'aide nécessaire. Les gens pensent que ce sont des revendications légères et qui ne sont pas urgentes. Ils pensent que la revendication salariale est plus importante que la revendication pour la répression d'un cas de violence conjugale. Mais c'est quand même fou. Nous sommes au 21e siècle. Là. On ne devrait pas tolérer que lorsqu'une femme qui n'a pas accès à son salaire, le fait qu'une femme n'ait pas accès à son salaire et qu'on ait une autre situation où elle a été battue par son mari, c'est deux revendications qui se valent. Ce sont des droits qui ont été violés à ce niveau. Il faut répondre. L'excision et la polygamie chez nous, les gens pensent que c'est un problème culturel et que c'est normal. Aucune femme n'est appelée à supporter, aucune femme au monde ne supporterait la polygamie. Et lorsqu'elles le supportent, elles sont obligées. Et il faut sortir de la polygamie. Aujourd'hui, on a des enfants qui se font exciser tout simplement au nom du respect d'un rite culturel. Mais ils oublient le traumatisme que cela apporte sur la personne. Ce n'est pas normal que les gens puissent penser que la polygamie, elle est tout simplement africaine, ou bien que ce sont des problèmes qui sont acceptables, que nous en Afrique, on supporte la polygamie. On ne supporte pas la polygamie. Personne n'a demandé à être dans une famille polygamique. Moi, je suis issu d'une famille polygamique. Mon père a eu 4 femmes. On a eu une 20aine d'enfants. Et le traumatisme que cela pose, il y a des discriminations qui sont naturellement entretenu entre les enfants. Il y a la question de l'héritage. Aujourd'hui, on pense que dans les familles polygamiques, plus tu as les garçons, plus tu as droit à l'héritage. La femme a droit à l'héritage au même titre que l'homme. Et donc, quand on a des enfants dans une famille polygamique, l'héritage du père doit se partager au même titre, au même niveau à tous les enfants. Mais malheureusement, on va prioriser certaines familles à d'autres. Les gens sont victimes de discrimination à tous les niveaux. Quelle est la famille qui n'a pas de problème? Maintenant, les familles polygamiques, les problèmes sont en triple ou en quadruple à ce niveau. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que nous, en Afrique, on est bien dans la polygamie. La polygamie n'est pas bien pour nous. Ceux qui pensent que la polygamie est bonne pour eux, c'est à eux de le justifier. Mais la polygamie n'a pas résolu. Elle n'a apporté que des problèmes. Elle a plutôt fait régresser les droits des femmes. Elle a fait régresser même l'autorité de la femme en tant que personne, en tant qu'individu. Elle n'a pas soutenu l'émancipation même de la femme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se sont retrouvées étouffées, tout simplement parce qu'elles ont été forcées à aller dans un mariage qu'elles n'ont pas voulu. Elles se retrouvent deuxième, troisième, quatrième épouse d'un homme qu'elles n'ont pas choisi au détriment de tous les rêves qu'elles devraient avoir dans sa vie. Et comment pourrait-on dire aujourd'hui que une personne qui a été forcée à un mariage, qui se retrouve dans un mariage avec d'autres femmes qui elles aussi sont des victimes, on va penser qu'elle n'a pas d'autres rêves. Elles pensent aussi également s'en sortir, mais du moment elles y sont déjà, elles n'ont pas d'autres issues. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont dans les polygamies, ce sont des personnes très pauvres qui pensent que c'est le mari qui peut subvenir à leurs besoins. Et certaines familles très pauvres pensent que c'est décharger de leur fille et les envoyer en mariage forcé, même si c'est en tant que troisième ou quatrième épouse, ça leur permet de sortir de la pauvreté. Ils ont un gain et la dot leur constitue une source de revenus pour eux. Mais ça, c'est une oppression. Ça, c'est une oppression de la femme. Aujourd'hui, il y a un message. Je pense que les gens sont restés même très conservateurs dans leur mentalité, tout simplement parce qu'ils pensent que c'est dans ce contexte-là seulement qu'on doit pousser les femmes à s'épanouir. On pense toujours que la place de la femme, c'est au foyer, et on met en œuvre tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'aller dans un foyer et rester là-bas. Aujourd'hui, les femmes sont appelées à travailler. Il faut qu'elles sortent de la polygamie, il faut qu'elles aient des activités qui leur permettent d'avoir des revenus ou s'occuper de leur famille. On a la Ligue tchadienne des droits des femmes, une organisation qui est menée par une sœur, Épiphanie, qui fait beaucoup aussi sur qui fait progresser aussi les droits des femmes, notamment celles des jeunes filles sur les revendications féminines. Et elle subit aussi les mêmes pressions, hein, Parce qu'aujourd'hui, on travaille dans une plateforme et on partage souvent nos stratégies, nos moyens d'action et les informations pour qu'on ait quand même une mise à jour des informations que nous argumentons dans nos organisations. Et donc, il y en a. De plus en plus, il y a des organisations, mais avec la Ligue tchadienne des droits des femmes, c'est plus direct. Et ils apportent même plus de solutions, plus d'accompagnement aux personnes victimes. Il y a l'Association des femmes juristes également, qui a un centre d'écoute pour les femmes et qui nous permet également d'identifier directement les femmes ou les personnes qui sont victimes de discrimination et quelle aide nécessaire on devrait apporter à ces personnes-là. Donc, ce centre d'écoute est une grande aide pour nous aussi. Et c'est dans cette plateforme-là, on essaie tant bien que mieux de se soutenir. Chacune fait à sa manière, mais on est toujours en synergie d'action. L'Association des femmes juristes et même la Ligue tchadienne des droits des femmes, et chez nous, on a nos représentations au niveau des régions aussi, parce que vous savez que les discriminations, c'est plus dans les provinces et dans les villages que les gens les vivent beaucoup au quotidien, et c'est là où il y a plus de cas de discrimination. Donc on est réparti quand même sur l'ensemble du territoire, pas sur l'ensemble mais sur les 23 régions. On a nos représentations là maintenant qui font du travail vraiment formidable, mais on essaie de faire de notre mieux pour être le plus proche de ces personnes là pour essayer ne serait-ce que d'alerter sur la situation dont elles sont victimes sur dans leur localité. Oui, au niveau national, il y a déjà, on est en plateforme et on essaie de parler de la même chose et chacun à sa manière, et de voir aussi comment mener des actions communes pour faire porter un peu plus haut ces revendications féministes. Mais au niveau régional aussi, on le fait parce que nous sommes dans une zone, vous voyez, au niveau du Tchad, on a des pays comme le Cameroun, comme le Soudan ou la Centrafrique, où ces cas sont très récurrents également. Et avec la situation au Soudan et en Libye actuellement, on a assez de réfugiés au Tchad et dans les camps de réfugiés, il y a beaucoup d'exactions qui sont commises par les personnes sur les femmes, sur les enfants, sur les jeunes garçons aussi. Et on essaie de porter ça au niveau régional aussi pour qu'il y ait une solution aussi au niveau global. Parce que actuellement, lorsque, par exemple, chaque année, le Tchad va donner son rapport, va participer à l'examen périodique universel sur les violation des droits de l'homme au Tchad, nous aussi on se mobilise pour avoir aussi des organisations au niveau régional et international qui vont présenter aussi notre rapport alternatif, parce que lorsque le gouvernement présente son rapport, il ne parle pas globalement des violences basées sur le genre dans ce rapport, ou bien il limite juste l'information à ce qui semble acceptable. Mais nous, dans le rapport alternatif, on vient plus en détail avec des cas récurrents, bien documentés, pour également attirer l'attention des partenaires du Tchad et obtenir également le soutien des organisations régionales et internationales pour effectivement demander plus de comptes au gouvernement ce qui est mis en place au Tchad pour pouvoir limiter ces violences, ces exactions à l'encontre des femmes et des jeunes filles.
Cette histoire, je ne l'ai racontée à personne, même pas à mon ombre. Ce traumatisme, je l'ai caché au tréfonds des abîmes de ma déchéance. J'ai voulu faire un trait sur ce soleil noir, mais le corps n'oublie pas ce que le temps essaye enfin d'effacer. J'ai voulu faire taire ces cicatrices qui m'ont tant rappelé à quel point j'ai été brimée, brisée et égorgée vive. J'ai voulu mettre une croix sur cette douleur du passé, mais trop, trop, présente. Hier, c'était juste mon histoire. Aujourd'hui, elle devient l'histoire de Darina, de Rukaya et de Khadija. Je m'endors dans mes cauchemars. J'ai passé ma nuit dans la geôle éternelle. Ils m'ont offert le sang de mes sœurs pour abréver mes peurs. Et je suis dans l'obligation de boire. À cet instant précis, je suis en Orient. Je suis à l'est du Tchad, près du Darfour, parmi les kalaches et les machettes. Je suis le tambour de la guerre, l'Amazon dans ce cercle noir, ce gouffre de la désolation. Slam.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro-Ondes sur le 90.8 et vous écoutez l'interview de la syndicaliste Kamadji Dembakarium. Elle vient de nous parler des oppressions que vivent les femmes au Tchad et de leur manière de lutter ensemble pour améliorer leurs conditions. On a terminé en écoutant un slam de Epiphanie Dianrang et on termine à présent cette interview sur le récit des marches réalisées par les femmes au Tchad. Bonne fin d'interview avec Micro-Ondes sur Radio Campus Grenoble.
Il y a eu plusieurs marches déjà, mais celle de 2021 a été la plus grande où on a eu assez d'organisations féministes qui ont participé à la marche. Mais sinon, auparavant, il y avait aussi d'autres marches qui avaient été organisées. Les revendications restent tout simplement la lutte contre la discrimination, les violences faites aux femmes, mettre fin, dénoncer la maltraitance, le trafic des personnes, la maltraitance des femmes, des enfants, les violences physiques, les violences conjugales, le harcèlement sur le lieu de travail et les violations sur les... comment on appelle ça? Les disparités sur les traitements salariaux. Ça, c'est en gros les revendications que nous avons portées dans les marches. Mais avec les violences basées sur le genre, ces derniers temps, on s'est rendu compte que de plus en plus, les femmes et les enfants se font violenter. Chaque jour, il y a au moins un ou deux cas de viol qu'on arrive à répertorier. Mais imaginez le nombre. Parce que certains, on n'a pas l'information. Souvent, c'est très tard. Il y a les traitements corporels qui sont infligés à beaucoup de femmes. Il y a des violences conjugales qui ne se dénoncent pas. Et souvent, c'est des cas fatals qu'on apprend et c'est difficile d'agir. Donc, de plus en plus, on essaie de se focaliser sur les violences physiques et les violences conjugales pour pouvoir... à mobiliser plus d'attention des politiques publiques, des acteurs de la société civile et des organisations sur l'urgence d'agir sur ces questions-là afin d'apporter des réponses effectives parce que nous sommes quand même une société où vivent des hommes et des femmes et qu'il n'est pas concevable que chaque jour des femmes se fassent tuer par des hommes et que personne ne réagisse, c'est pas possible. Lorsque les gens participent, même ont participé à cette marche, ils sont étonnés de voir même qu'on puisse organiser une marche sur les violences faites aux femmes. Et que beaucoup restent à se demander mais est-ce qu'il y a de telles marches aussi? Mais c'est une marche comme toute autre, mais elle est spécifique parce que les gens refusent de dénoncer ces choses-là. Les gens refusent d'alerter même sur ces cas, mais ça, c'est un déclic parce que les gens commencent déjà à se dire que non, il faut que ça change, ça doit changer et que ce n'est plus comme avant. Et ça a donné lieu aussi à d'autres marches. Les gens commencent à s'intéresser, à se mobiliser et on sent qu'il y a un éveil qui est majeur, qui se met en place, mais ça se fera davantage. Il y a une chanson aussi, quand on avait organisé une marche pacifique des femmes, parce qu'on avait fait 6 mois de grève et qu'il n'y avait pas d'hôpital, pas d'école, tous les services publics étaient à terre. Et au bout de 6 mois de grève, on n'en pouvait plus parce que pendant ces 6 mois, on n'a pas payé nos salaires et on est resté à la maison. Et on vivait tout simplement par la volonté des bonnes personnes. Et comme c'était difficile, on avait ouvert un point de collecte de nourriture, de médicaments au sein de la bourse du travail pour pouvoir continuer à aider. Et les gens ont beaucoup, la population, de manière générale, les gens ont porté beaucoup de dons, même de l'argent. Tu vois des personnes les plus démunies qui arrivaient à nous donner 1 euro, 2 euros pour soutenir notre grève. C'était vraiment merveilleux. Et puis au bout, on s'est dit, mais on ne peut plus continuer. Et puis au niveau du comité des femmes, on a décidé d'organiser une marche pacifique. Et pendant la marche, nous avons ouvert, on a fait une chanson. On s'est dit que mais pendant 6 mois de grève, comment Déby peut rester insensible par rapport aux revendications des femmes jusqu'à ce que pendant 6 mois de grève, il n'ait pas réagi. Donc ça voudrait dire qu'il ne respecte pas la femme. Et on va le lui rappeler ça dans une chanson. Et dans la chanson, on a dit « La femme est la mère de Déby, la femme est la sœur de Déby. Elle est la femme de Déby, Déby lui doit du respect. Elle t'a porté au ventre, elle t'a porté au dos. Elle t'a allaité, Déby, tu dois du respect. »
Excellent.
Et on a enregistré la chanson lors de la marche et on l'a publiée, mais c'était un affront. Et on le répétait, on changeait les noms avec tous les ministres, tous ceux qui ont participé à ce que la grève là soit un désastre. On les a chantés dans cette chanson-là.
Vous venez d'écouter l'émission Micro-ondes, qui à l'occasion de la conférence de Kamadji Dembakarium, organisée par Survie à Grenoble, est allée interviewer cette militante syndicaliste et féministe tchadienne. Nous espérons que cette émission vous a plu. Et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour continuer à suivre les luttes de l'agglomération grenobloise. D'ici là, restez à l'écoute du 90.8.
Et on se quitte en écoutant Jawise Désamorcé, une chanson présente sur la compilation Décolonisons, produite par l'association Survie.
A bientôt!
Camouflage, Babylon veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Tous les coups d'État financés par l'Occident font énormément de morts pour le pouvoir et l'argent. Des présidents mal intentionnés commettent des crimes imposés par Babylone, système et leur combine. Pour avoir les mêmes mises sur les richesses, ils oppriment des familles entières assassinées, ça me déprime. Si t'es témoin et que tu dénonces, ils te suppriment. Beaucoup trop de nos frères sont devenus des victimes des camouflages. Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. J'ai dénoncé, ils ont voulu me liquider dans la rue, attaqué par des militaires armés. De nos jours, les droits de l'homme ne sont même pas appliqués. Les hommes des milices sèment la terreur dans tous les quartiers. Quand ils ont trop vu, ils n'hésitent pas à tirer. Les civils innocents se font martyriser et les coupables de ces crimes ne sont même pas jugés. Les politiciens agissent en toute impunité. Camouflage, Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Ils font des victimes, on les compte même par milliers. Et partout au Congo, beaucoup de femmes sont violées. Il n'y a pas d'assistance pour ces personnes en danger. On retrouve des âmes enterrées, à peine dissimulées. Après cette sale guerre, ils n'ont toujours rien ramassé. La mafia franco-africaine doit être désamorcée. Ils installent des criminels qui exterminent sans pitié. À la tête de nos pays pour toujours tout contrôler. Camouflage, Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sabotage, les médias français étouffent les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer. Sans respect, ils envoient du sang contaminé pour détruire des populations déjà maltraitées. Levons-nous, mes frères, ne nous laissons pas aller. Sauvons les vies de ces innocents terrorisés par ces assassins qui sont censés nous représenter. Il faut condamner les actes de ces tyrans acharnés qui agissent dans l'ombre et ne sont jamais démasqués. Et bien sûr, les médias français ne veulent pas en parler. Tchao! Camouflage, Babylone veut étouffer les massacres qu'il y a en Afrique malgré les appels à l'aide. Cette hypocrisie, il faut la désamorcer.
trafic, magouille, terrorisme, génocide. Voilà les pratiques de Babylone en Afrique. Les guerres, les crimes, les mines, les ruines. Voilà ce que combine Babylone en Afrique. Trafic, magouille, terrorisme, génocide. Voilà les pratiques de Babylone en Afrique.